Une nouvelle guerre au Moyen-Orient a commencé il y a maintenant presque un mois par une attaque israélo-américaine sur Téhéran. Elle s'est étendue assez rapidement à pratiquement toute la région, en particulier dans les pays du Golfe et au Liban. Elle a déjà des impacts économiques, humanitaires et politiques majeurs. Et j'en parle avec François Larochelle. C'est surtout lui qui nous livre une chronique. C'est lui le spécialiste, ancien diplomate canadien. Bonjour François.
Bonjour.
Alors, vous dites que c'est l'opération dite « Fureur épique ».
Oui, qui, depuis le 28 février, là, les Israéliens, les États-Unis pilonnent sans relâche l'Iran. Ils ont éliminé de nombreux chefs politiques et militaires, dont le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, et visé des dizaines de milliers de cibles militaires et d'infrastructures. En fait, en Iran, on ne connaît toujours pas l'étendue exacte des dégâts matériels. Ils doivent être massifs et on parle maintenant d'autour de 2000 morts en Iran. Et on assiste à une escalade parce que malgré les annonces victorieuses à répétition de Trump, les Iraniens ne lâchent pas le morceau, loin de là. D'ailleurs, tous les pays du Golfe ont subi une riposte intense de missiles et de drones iraniens visant les bases américaines et des installations énergétiques. Les missiles iraniens ont fait aussi pas mal de dégâts en Israël. Les Iraniens ont provoqué l'arrêt de sites de production de gaz et de pétrole dans les monarchies de la région. Ils ont aussi, surtout, perturbé l'activité économique mondiale en bloquant le détroit d'Ormuz, qui constitue une voie de passage stratégique où passe 20 % du trafic de pétrole mondial.
Les attaques d'Israël ont repris sur un autre front contre le Hezbollah au Liban.
Effectivement, après que cet allié de l'Iran l'ait visé avec des roquettes et des drones, la riposte de l'État hébreu n'a depuis lors plus de limites. Elle a semé destruction et chaos un peu partout au Liban. Il y aurait plus de 1 000 morts libanais et 1 million de déplacés. Israël veut désormais occuper une zone tampon au sud du Liban, vidée de ses occupants et soumise à des démolitions systématiques.
Alors que Benjamin Netanyahou bénéficie du soutien de l'opinion publique israélienne dans cette énième guerre, le contexte politique est tout à fait différent à Washington.
Oui, car cette guerre, selon les sondages, n'est pas du tout populaire aux États-Unis. Depuis, l'augmentation du prix du pétrole va énerver et énerve déjà Trump, ce qui va faire gonfler l'inflation. Les électeurs de Trump avaient voté pour lui car il promettait de baisser l'inflation et que le pays n'allait pas s'impliquer dans des guerres coûteuses.
Il en a promis des choses.
C'est tout, effectivement, et c'est tout le contraire qui se produit actuellement.
Et au Canada, qu'en est-il de la position canadienne?
Oui, bon, lors de sa première déclaration suite à l'attaque sur l'Iran, le premier ministre Carney a rapidement appuyé l'administration Trump. Puis, dans une nouvelle déclaration le 3 mars, il a rétro-pédalé. Il a alors appelé toutes les parties au conflit au respect du droit international et a procédé à une désescalade et s'en remettre à la diplomatie. Et puis alors que le gouvernement avait écarté toute idée d'engager le Canada dans un conflit au Moyen-Orient, maintenant on se dit prêt avec un groupe de pays à collaborer pour le libre passage dans le détroit d'Ormuz, mais sans donner de détails. Alors c'est plutôt confus tout cela.
Le régime iranien tient bon jusqu'à maintenant.
Oui, il est sûrement amoché, mais il apparaît toujours en place. Il remplace ceux qui sont assassinés. Ainsi, Mojtaba Khamenei a succédé à son père Ali Khamenei comme guide suprême qui a été tué au premier jour de la guerre actuelle. On dit ce nouveau Khamenei très conservateur et proche des gardiens de la Révolution, mais on ne l'a pas vu depuis sa nomination.
Mais pour l'instant, en matière de guerre conventionnelle, l'Iran perd tout en gagnant sur d'autres plans.
Oui, car toute la stratégie iranienne repose sur la guerre qu'on appelle asymétrique, qui rend la poursuite des opérations de plus en plus coûteuse pour la partie américaine et les Israéliens. L'exemple des drones iraniens Shahed à 20 ou 40 000 $ chacun, qui mobilisent des intercepteurs qui coûtent entre 1 et 3 millions de dollars chaque. Il y a aussi la question de l'épuisement éventuel des munitions, ce qui n'est pas seulement un problème pour la partie iranienne. Selon des experts, après leur usage intensif depuis le début de la guerre, les antimissiles américains Patriot, mais aussi les missiles de croisière Tomahawk, se rapprocheraient de la rupture de stock. La guerre coûte une fortune aux États-Unis, mais aussi à Israël. Le ministère de la Défense américain veut maintenant obtenir 200 milliards de dollars supplémentaires.
Puis il y a aussi le blocus iranien du détroit d'Ormuz.
Oui, l'Iran tire un avantage maximal de sa géographie avec le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. Avec ses ultimes atouts et malgré son déséquilibre militaire, le régime iranien peut se livrer à un chantage efficace, le doigt sur une artère vitale de l'économie mondiale, avec pour conséquence, comme on l'a dit, de faire monter le prix du pétrole, mais aussi de risquer une crise économique mondiale majeure.
Et la suite?
Excellente question. La réponse se trouve dans le cerveau confus et dangereux de Trump, car sa guerre contre l'Iran ne se déroule pas du tout comme il le souhaitait. Ainsi, les États-Unis pensaient qu'un mécanisme inéluctable serait enclenché avec la décapitation, comme ils appellent, rapide d'une partie de la direction politique de l'Iran. Un processus qui, allait motiver la révolte de la population. Mais pour l'instant, celle-ci se met plutôt à l'abri comme on la bombarde. Pour atteindre l'objectif de faire tomber le régime, il faudrait envoyer des troupes au sol. On assisterait à un engrenage bien connu dans cette région pour les Américains, comme on l'a vu en Irak ou en Afghanistan. Trump et ses sbires disent que cela ne se fera pas, mais on verra, car actuellement, ils dépêchent des Marines et des parachutistes dans la région. En nombre insuffisant pour prendre l'Iran, probablement, mais assez pour faire des opérations comme prendre les installations pétrolières vitales de l'île iranienne de Kharg.
En même temps, il y a des médias américains qui avancent que l'administration de Donald Trump a fait passer un plan de paix en 15 points à l'Iran par l'entremise du Pakistan, qui entretient de bonnes relations avec les deux parties.
Ouais,
est-ce une fake news?
C'est difficile de savoir, mais les États-Unis, dans ce plan, en fait, apparemment proposeraient un cessez-le-feu d'un mois, le temps que les autorités iraniennes étudient leurs demandes. Parmi ces 15 points, certains concerneraient le programme nucléaire iranien, les missiles balistiques, d'autres imposeraient l'abandon du soutien à des groupes comme Hezbollah ou le Hamas, et que le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation maritime. En contrepartie, l'Iran obtiendrait une levée des sanctions internationales et un soutien pour son programme nucléaire civil. Trump affirme que des négociations constructives se déroulent avec les Iraniens, mais ces derniers continuent de démentir. Ils auraient en fait déjà rejeté ce plan de Trump. Bon, alors qui croire? Comme on sait, Trump est un menteur patenté. Peut-être ne veut-il que ralentir la hausse du prix du pétrole et enrichir ses proches à la bourse avec ses annonces fluctuantes qui changent d'heure en heure. Mais les Iraniens négocient aussi peut-être en secret.
Donc, à moins que de réelles négociations se déclenchent, on peut craindre que ce conflit s'éternise.
Malheureusement, car si Trump a intérêt, lui, à terminer rapidement cette guerre qui est catastrophique jusqu'à maintenant pour les États-Unis, ce n'est pas le cas de Téhéran qui veut faire monter les enchères, ni d'ailleurs pour Netanyahou qui a habilement manipulé Trump. Il est difficile d'envisager dans ce contexte une solution rapide au conflit car il est devenu très complexe et les Iraniens n'ont aucune confiance en Trump. Car au cours des derniers mois, les Iraniens s'étaient engagés sérieusement dans des négociations avec Washington et à chaque fois, les Américains et les Israéliens les ont attaqués après 2 ou 3 jours de discussion. En terminant, je dirais qu'en attendant que cette folie se termine, la population américaine pourra toujours réfléchir sur les conséquences d'avoir élu Trump en remplissant le réservoir de leur gros camion pick-up.
Bon, alors, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais vous terminez souvent avec une pointe d'humour et ça nous fait du bien. Parce qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Là. C'est super inquiétant. Vous disiez que dans votre vie de diplomate, dans votre vie tout court, vous n'aviez jamais vu quelque chose d'aussi épeurant que ça.
Non, là. C'est vraiment parce que ça peut déclencher une crise économique mondiale et ça peut se faire très rapidement si Trump commence, comme il l'a menacé, de le faire, de bombarder les installations, les infrastructures énergétiques iraniennes, ben les Iraniens vont se venger, vont faire sauter les autres des pays producteurs de pétrole et de gaz autour, ce qui va faire là, qu'il y aura plus, il va, clairement y avoir une pénurie de pétrole et de gaz sur le marché international. Et puis, il faut penser aussi aux dégâts environnementaux que cette guerre crée déjà et que risque de créer davantage si ça continue. Là,
et les pertes de vies humaines, évidemment,
au
premier plan.
Oui, bien sûr,
là.
Et les destructions d'édifices, souvent où des civils, des habitants normaux là, habitent.
François La Rochelle, ancien diplomate canadien, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.